bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original avec Léa Cadeau-Brunetti, Agnès Surstel, Daniel Morin,
bonjour Agnès,
Albert Alcou, tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité pour la première fois dans cette bande originale, Guillaume Musso.
Bonjour. Bravo.
Je suis ravi de vous accueillir, nous sommes ravis de vous accueillir, bienvenue Guillaume.
Merci pour votre invitation.
La vie secrète des écrivains, on peut dire beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, il est très riche, il est très dense, ce roman que vous qualifieriez de coup de gueule sur le monde de l'édition ou de thriller ?
Non, je pense que c'est un thriller intime et littéraire, mais qui se passe effectivement dans le monde, oui, de l'édition, des livres.
Il y a vraiment de lecture. Hein.
Absolument.
Il y a ce que vous voulez faire passer comme message perso, ouais. sur les critiques, sur les éditeurs, sur les copains.
Vous avez lu ça, oui.
Auteur, oui. Ouais, j'ai vu.
D'accord,
ouais. J'ai vu. Je crois. Ouais.
Oui. Bon. Oui, non, il y a à la fois un suspense et
total.
Une deuxième lecture où on peut voir
des messages.
Effectivement, des petits messages.
Ou des pensées.
Un gros message. Ouais.
Et puis le thriller, il est dinguissime. Le point de départ, il s'appelle
Nathan Falls.
C'est ça.
False, ouais. Ça veut dire faux en anglais. Absolument. Et il y a une part de faux, d'affabulation, de mensonge surtout dans ce roman.
C'est l'un des thèmes du roman.
Qui le rend passionnant d'ailleurs.
Alors là, vous pouvez vous dire, waouh, il est bilingue, Albert Algou. Non, ça c'est expliqué dans le roman. Donc comme ça, il a un peu de mal.
Ça la part.
Et donc, c'est un auteur à succès qui a eu 3 best-sellers.
Oui.
Et puis en 98-99, il a craqué. Ah. Il se retrouve sur une île totalement imaginaire. Arrêtez de googliser Beaumont dans le Var,
ça, on s'y croirait.
Ça n'existe pas.
Un mélange de Porquerolles, d'Hydra, ouais. De Corse. Ouais.
Ouais, c'est ça. Il se retrouve donc sur une île qui n'est desservie que par un ferry par jour. Un à l'aller, un au retour.
Comment est tranquille.
C'est ça. Totalement abandonné, mais sur laquelle il y a, ce qui est assez drôle d'ailleurs, une librairie et puis des troquets qui ont des noms, mais qui existent en plus parce que
depuis des années en fait.
Il y a vraiment un troquet qui s'appelle Saint-Jean Hiver.
Un Saint-Jean-Hiver, ouais.
Saint-Jean-Hiver.
Ouais, on a un autre qui s'appelle Les Fleurs du Malte.
Les Fleurs du Malte.
Voilà,
Malte.
Ça, c'est pas mal. Et une boulangerie qui s'appelle Bread Pit. Ouais.
Et ça, vous les avez vus?
Oui, je les ai cherchés. Ça fait des années que je stocke effectivement des
noms. Il y a les coiffeurs aussi, on en parlait l'autre jour.
Ouais. Oui, c'est un grand classique, c'est ça.
Donc, sur cette petite île, vit reclus ce Nathan Falls et il y a différentes personnes.
Il a arrêté d'écrire, faut dire.
Oui, il a arrêté d'écrire.
Oui, depuis 20 ans, il a annoncé publiquement qu'il a arrêté, sans expliquer pourquoi, hormis le fait que voilà, il en avait marre de rester, pour reprendre ces termes, 10 heures par jour, le cul sur une chaise.
C'est ça, faut avoir de bonnes fesses.
À qui cette phrase? Alors, c'est Daniela Ferrière?
La première qualité d'un écrivain, c'est d'avoir de bonnes fesses. Toujours trouvé ça génial ici. Et il n'a pas tort en plus, parce que c'est vrai que la vie d'un écrivain, c'est tout sauf glamour, quoi. C'est rester chez soi. En peignoir, en pyjama.
Alors, on va s'habiller.
Pas obligé de passer ces journées à poil.
Hugo écrivait debout.
C'est vrai que Victor Hugo écrivait debout. Tu as raison. Il déambulait, il marchait. Puis on a parlé aussi de ces écrivains marcheurs avec
Sylvain Tesson. Le gueuloir.
Ici, ou Ruffin, encore une fois, de l'importance de marcher. Mais alors là, en l'occurrence, il y a différentes personnes pour différentes raisons qui se mettent à enquêter ou à vouloir approcher cette espèce d'ermite reclus, mythe, star. Mais à la fois soit pour une interview, soit pour donner des conseils d'auteur, soit pour comprendre ce qui peut se passer. Et je ne vais pas vous en dire plus, après vous lisez le reste, parce que c'est un véritable thriller. Alors qui dit thriller dit meurtre, assassinat. Oui, on trouve un cadavre, on peut le dire.
On trouve un cadavre qui fait que l'île, en fait, va être soumise à un blocus. Et donc on passe dans une chose qui est une sorte de huis clos à ciel ouvert.
Ouais.
Et cette île qui, au départ, paraît bucolique, accueillante, parfaite pour les vacances, devient de plus en plus inquiétante.
On peut parler quand même. Prison. On parlera du personnage de Raphaël.
De ce que tu veux, t'es chez toi.
Le narrateur, c'est un jeune fan qui lui se fait embaucher dans la seule librairie de l'île avec l'espoir de rencontrer son idole.
C'est un auteur.
Nathan,
ça,
oui, oui. Et futur. Pour lui faire lire son manuscrit qui a été refusé par tous les éditeurs de la Place de Paris.
Est-ce que vous, d'ailleurs, vous avez été maintes et maintes fois refusé?
Oui, moi, c'est Raphaël, c'est un petit peu moi quand j'avais 20 ans, 23 ans, où j'habitais Antibes, je connaissais personne, ni à Paris, ni dans l'édition. J'ai envoyé mes manuscrits par la poste et j'ai aussi eu effectivement mon lot de lettres de refus.
D'accord, ouais. Il y a des lettres retranscrites.
Oui, qui sont retranscrites dans le...
Vous alliez en boîte de nuit à Jean Lépin, toi?
Eh, mais oui, je crois qu'on a des fréquentations communes.
Non.
On appelle ça comme ça.
Tu veux dire que j'ai été disque jockey de Guillaume Musso dans ma jeunesse?
C'est toi qui a fait danser Guillaume Musso.
Vous étiez où? Vous étiez...
Au whisky?
Au whisky à Gogo,
oui, évidemment. Oui, oui, oui. Avec Jean Vernet, évidemment, évidemment. Bon, on a un...
Non, bah, il y a de la musique aussi dans le livre.
D'anciens combattants, mais...
Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Jouons et posons des questions d'abord sur Guillaume Musso. À la suite de quel incident technique Guillaume a-t-il lu son premier roman dans sa vie?
Une panne.
Une panne télé.
Une panne de quoi?
D'électricité.
Une voiture. Comment on fait?
Panne d'électricité.
0505? Moi, réponse collégiale, comme disait... Alors, reprendre les phrases de Philippe Bouvard, tu veux ma mort ou quoi?
Je pensais que c'était Léo de Hurlevent que vous aviez lu en premier.
Absolument, et je l'ai
et
lu.
Boum.
Et
boum
a... J'ai lu après...
Oui, mais c'est pas la réponse que j'attendais.
J'ai lu après, j'avais 11 ans, les vacances de Noël chez mes grands-parents, panne d'électricité, pas de télé, trop froid pour jouer dehors, et donc voilà, je me suis rabattu sur l'un des seuls livres qu'il y avait.
La bougie.
Voilà, c'était avec c'était Léo de Hurlevent, Émilie Bonté.
Quelle habitude d'écrivain commence-t-il à prendre de sa jeunesse?
Écrire la nuit.
Dès sa jeunesse, pardon.
Ouais, j'ai pas compris. Écrire très tôt le matin.
Non, la question est hyper mal posée.
Quelle habitude d'écrivain commence-t-il à prendre dès sa jeunesse?
Fumer.
Non,
bah, c'est boire. Des...
Ah oui, c'est écrivain fumé, quoi.
Se muscler les fesses.
Non.
Travailler à heure régulière. Le dire à voix haute. Dire le texte à voix haute.
Écrire, ça c'est le gueuloir.
S'obliger à écrire un nombre d'heures.
Ouais. Non, c'est un truc où tu dis ça, c'est un
chaque
plan d'écrivain.
Chaque jour une page.
C'est un plan d'écrivain. Alors oui, mais comment?
Quoi?
Moi-même, je connais pas la réponse.
Ah bah écoutez.
Chaque jour, une page sur ce qui l'entoure.
Je te trouve courageuse d'insister sur cette question parce que personne n'a compris.
Prendre des notes au quotidien, consigner sur papier
et
dans
voilà,
un petit cahier.
C'est ça, avoir son petit carnet, son cahier,
se balader avec. C'est vrai, j'en ai plusieurs dizaines, des piles, on m'en offre. Non, mais j'en ai toujours un sur moi. Et parce que les bonnes idées, en fait, nous entourent. Hein. Il suffit de se baisser pour les ramasser. Et l'une des qualités, je pense, d'un auteur, c'est de savoir discriminer les idées qui peuvent donner lieu à une étincelle pour faire un roman.
Et c'est de s'amuser aussi avec des points de départ réels et de les faire rentrer dans la fiction. C'est-à-dire de broder des petits des trucs autour pour que d'un coup, ça devienne
voilà,
fiction.
Voilà, c'est de savoir...
Ce que vous expliquez aussi à la fin du roman.
À la fin du roman, c'est finalement... Moi, tout fait farine dans mon moulin, c'est-à-dire que voilà, l'inspiration vient de partout, de l'observation, du goût des autres, voilà, une conversation avec un chauffeur de taxi, un couple que vous allez observer au restaurant, voilà.
Et sur lequel vous fantasmez, enfin
exactement.
Vous leur racontez.
Mes meilleures idées sont tout le temps venues.
D'un voleur, quoi.
Bien sûr, un voleur de.
Et un menteur.
Un voleur de vie. Un voleur
c'est
et après, voilà.
Ah, mais vous n'avez jamais eu de problème à regarder les gens manger au restaurant comme ça
pendant que je laisse traîner une oreille.
Ah, vous faites ça discrètement,
voilà, j'ai 15 ans de métier.
Et pour l'entourage, se dire qu'on vous raconte un truc, et potentiellement, ça peut se retrouver dans un bouquin.
Il y a cette idée.
C'est horrible, ça.
Ce que je dis dans le roman, en fait, c'est un écrivain n'a jamais de vacances. Soit un écrivain écrit, soit il pense à ce qu'il va écrire. Et donc, il n'y a jamais de bouton off. Et c'est aussi ce qui fait le côté excitant de ce métier.
Mais est-ce qu'il y a des, en effet, comme le dit Leïla, des personnes de votre entourage, de votre famille, des proches, des voisins, que sais-je, ou des habitants d'immeubles qui d'un coup sont venus vous voir en disant « J'ai lu votre roman, c'est pas très cool la scène du machin, parce que je sais que c'est moi. »
C'est toujours des clins d'œil sympathiques et j'ai pris pour règle de ne jamais régler de compte à travers un roman, parce que c'est assez
même avec un inspecteur des impôts.
Attends, oui, il y avait un auteur comme ça, je sais plus lequel.
Qui
donnait des rôles de méchants ou de salauds.
Je crois que c'est Jean-Tellet.
À des personnages de son livre. Je trouve ça génial.
Ouais,
c'est
assez drôle.
On règle pas des comptes, mais on balance carrément le nom, et puis on lui invente une vie d'enfoiré. Et c'est Chabrol dans ses films. Le point de départ, c'est peut-être Chabrol. Je pense que Chabrol a dû commencer avant Jean-Tellet. Jean-Tellet a récupéré cette très bonne idée, mais il en a le droit. Autre question concernant Guillaume Musso. Quel parc parc dans lequel on peut se balader fascine Guillaume Musso?
Butte-Chaumont, Luxembourg, Jardin des Plantes à Toulouse,
Mercantour.
Non, parc à huîtres.
Disneyland,
parc Monceau, Montsouris.
Naturel.
Non, oui.
Yellowstone.
Non.
C'est en France?
Non.
Ah, c'est le Central Park.
Bah ouais. Vous êtes venu pour draguer? Vous êtes venu pour draguer Guillaume Musso? Bah, je balance une réponse à Agnès Surcel, c'est un plan de drague, excusez-moi. Bon.
Il y a des gens qui aiment tricher, c'est tout.
Ce parc vous a fasciné au point d'écrire dessus?
Oui, voilà, c'est l'un de mes plus gros succès. Central Park part de l'hypothèse, un homme et une femme se réveillent menottés l'un à l'autre à 8h du matin dans Central Park.
Sans savoir
du tout comment ils sont arrivés là. Elle, c'est une flic française, la veille, elle faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées. Et lui, c'est un pianiste de jazz qui, la veille, jouait dans un club à Dublin. Ils ont en commun d'avoir beaucoup bu. Ils ne se souviennent pas du tout ni de s'être rencontrés ni d'avoir pris l'avion.
Vous avez chopé où ce souvenir?
Ouais, pas mal. Et tout ça s'explique rationnellement.
En rencontrant Leïla.
À la fin.
Avec Guillermo Guiz.
Ça peut être nous, ça, oui, c'est vrai.
Mais alors, blague à part. Avant l'idée de personnes qui sortent d'une nuit mouvementée et des vapeurs d'alcool, le parc en lui-même vous a plu. Vous avez dit, il y a de quoi raconter une histoire dans ce décor-là.
Parce que c'est suffisamment grand et vous avez surtout dans le haut du parc des endroits où
des écureuils.
Voilà, où si vous allez filmer là-bas, vous pensez pas du tout que vous êtes dans l'une des plus grandes métropoles du monde.
Ouais. Guillaume peut écrire partout, on l'a dit, il se balade avec un carnet, mais il y a un lieu où il ne peut pas écrire.
L'église?
Non.
Le métro?
Non.
Dans son lit?
Lui.
Dans son lit.
Exactement, Agnès.
Chez lui.
À la maison.
Je n'écris jamais chez moi. Chez moi, c'est vraiment, voilà, c'est la famille, le couple, les enfants. Et...
Alors, n'en dites pas plus.
Pardon.
Parce que la question suivante, la voici.
Les enfants.
Pourquoi trouve-t-il important de ne pas écrire?
Pour s'occuper des siens, pour pas mélanger la fiction et la réalité, pour se souvenir du prénom de sa femme.
Pour sortir un peu, pour avoir
des horaires. Parce qu'il se met dans des états pas possibles.
Pour s'occuper des autres.
Le sang qui coule des narines et de la bouche, non, c'est pas ça.
Pour faire ses devoirs à ses enfants.
Alors, c'est à cause des enfants.
Faire à manger.
Grâce aux enfants.
Jouer avec ses enfants.
Donner le bain.
Pour avoir le calme.
Raconter des histoires qui sont pas écrites.
Parce qu'il n'aime pas ses enfants et qu'il ne veut pas le voir.
Les fuir.
Tout ça est valable. C'est pas grave. C'est pour une valeur pédagogique vis-à-vis des enfants, pour passer
être
du temps avec
là.
Eux, pour jouer, mais pour leur envoyer un signal.
Bah que le travail, c'est le travail, la maison, c'est la maison.
Ouais, c'est bien.
Je vais au travail.
Voilà, me voient partir au travail comme ils voient partir leur mère au travail et qu'ils comprennent que l'écriture, c'est un métier, certes artistique, mais que c'est un métier comme un autre qui demande de l'abnégation, de l'obstination, des horaires.
Et alors, est-ce que vous avez. Un lieu précis, vous avez quoi? Vous avez un bureau?
Oui, j'ai un bureau.
Physiquement de vous mettre dans un état particulier pour écrire?
Oui, je sais. Alors, Stephen King disait toujours, écrire c'est fermer une porte, et fermer une porte ça veut dire trouver un moyen, trouver un lieu de s'abstraire de son quotidien pour pouvoir pénétrer dans son monde imaginaire. Et donc tout au long de ma vie, j'ai toujours loué soit des petits bureaux, soit des endroits.
Vous changez d'endroit ou pas?
Vous pouvez, ça m'arrive. Ouais.
Et vous travaillez sur un ordinateur ou plume?
Les deux.
Plume, stylo.
Au début, pendant longtemps, travail sur un carnet jusqu'à avoir une vingtaine de pages qui en fait va être le squelette de l'histoire. Et ensuite, vous rajoutez la chair et ça, vous rajoutez la chair sur le squelette. Ça, c'est le moment de l'écriture. Et ça, c'est
vous
9
étouffez.
Mois, effectivement.
Et de gestation. Ouais. Et lorsque vous dites j'ai le squelette, ça veut dire que vous avez le début et la fin.
Ouais.
Enfin, le début, milieu et la fin de votre roman, ou vous avez les 10 premières pages.
Non, j'ai lu normalement.
Après, vous partez dans
le début et la fin, c'est un peu comme le Tour de France. Tout le monde connaît les différentes étapes, mais personne ne sait ce qui va se passer à l'intérieur de chaque étape. Et ça, c'est l'excitation le matin quand vous ouvrez votre ordinateur, dire qu'est-ce que mes personnages vont me réserver. Alors, c'est un peu cliché, mais le moment excitant, c'est quand les personnages se mettent à avoir envie de faire des choses auxquelles vous ne les prédestiniez pas forcément.
Dernière question, quelle est la phrase qu'on lui répétait quand il était petit et qui l'agaçait?
Arrête.
Tiens-toi droit.
Arrête.
Mange ta soupe.
Non. Mais ça ressemble à ça, oui. Une phrase qu'on a tous entendue.
Finis ton assiette.
Sur le monde des adultes et le monde des enfants.
Va te laver les dents.
Alors, c'est sur le monde des adultes et le monde des enfants, oui.
Bah, t'es un enfant, tu restes à ta place.
Non.
On parle pas à table.
Là, c'est les adultes, là, c'est les enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants?
C'est pas loin, non.
qu'est-ce qu'on dit?
Lâche le chien.
Tu comprendras plus
quand
tard.
Tu seras plus grand.
Exactement. Ouais. Exactement. Et la phrase aussi, c'est, tu verras quand tu seras grand que Big Flo et Oli ont donné en...
Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard. Et je comprends pas.
Exactement. Est-ce que comme vous dites ça aussi,
ça. Je suis plus tard, oui, je connaissais pas. Mais
Big Flo et Oli, c'est génial.
Mais oui. Ça m'a gassé et finalement, j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait comprendre.
Et ça vous énervait sur place, c'est-à-dire
oui.
C'est-à-dire
vous disiez, je voyais bien que c'était une embrouille un peu. Et aujourd'hui, je fais gaffe à pas le dire à mon
le
fils
reproduire
ou à ma fille,
à procrastiner l'explication.
C'est ça, exactement. Ouais.
Alors, la vie secrète des écrivains. Est-ce que vous aviez le titre d'ailleurs dès
oui.
le début ou
oui,
il est venu?
J'ai ce titre depuis 10 ans et c'était une sorte de private joke avec mon éditrice où je lui disais tout le temps un jour lorsque j'arrêterai d'écrire, mon dernier roman aura pour titre La vie secrète des écrivains.
Elle est inquiète parce qu'elle dit c'est le dernier.
Voilà, et finalement, le titre était bien et était parfait pour ce livre.
J'allais disparaître, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire.
C'est une tentation, parfois, qu'on a tous.
Vous êtes en train de nous faire une Mbappé, en fait, dire... vous voulez plus d'argent.
Voilà.
Non, mais c'est formidablement bien construit parce qu'il y a des rebondissements évidemment dans j'allais dire comme dans tout thriller, c'est il y a la vraie recette, on se met nous à la place de ceux qui font l'investigation et puis on croit être plus malin que l'auteur ou que les personnages. Il y a une mise en abîme réelle parce que il y a cette manière d'écrire de démarrer le roman, puis arrive Raphaël qui se dit tiens, je vais écrire un roman et réécrit les mêmes premières
lignes. Les poupées russes, oui. Voilà. Le roman.
Et puis après, il y a même un faux Guillaume Musso qui arrive.
Un Guillaume Musso fictif qui vient
réécrire encore ses vidéos.
Ouais, c'est ça.
Vous décrivez extrêmement bien les humeurs, les lumières, les ambiances, le mistral qui peut venir fouetter une île comme ça en Méditerranée.
Ouais. Le lieu est important et je suis parti de la constatation qu'en fait, une île en anglais, c'est Island. Et dans Island, vous avez le jeu. Le moi et l'Inde,
le territoire, le pays.
Donc c'est le territoire du moi. Et je me suis parti en disant, voilà, l'île, ça va être la métaphore de la vie intérieure, de la vie secrète, en fait, des personnages. Et la citation qui guide tout le roman, c'est la phrase de Gabriel Garcia Marquez qui dit « Tout individu a trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. » Et c'est effectivement cette vie secrète de mes personnages que j'aime aller gratter. Alors, eux, ils ont une vie secrète très très lourde, mais on porte tous en nous une vie qu'on n'a pas forcément. Oui, aussi.
Plus que d'autres.
Et puis, il y a ce constant travail de parler cette intrigue, ce page turner, parce que vraiment, on a envie de savoir ce qui se passe et c'est haletant. Et puis, il y a une mise en abîme aussi avec le monde de la littérature.
Oui, c'est aussi une déclaration d'amour par rapport, effectivement, aux auteurs, au roman.
Il y a des phrases que vous mettez en exergue de John Steinbeck qui dit « Le métier d'écrivain fait apparaître celui du jockey comme une situation stable. »
c'est formidable. Pour dire, le problème du métier d'écrivain, c'est que c'est pas parce que vous avez écrit 10 livres que vous allez être capable d'écrire le 11e. Il n'y a pas de...
C'est ce que vous faites dire d'ailleurs à Nathan.
Il n'y a pas de recette. Enfin, la phrase de Somerset Maugham qui disait « Il y a trois grandes règles pour écrire un roman. » Malheureusement, personne ne les connaît. Et c'est assez vrai.
Elle n'est pas mise, celle-là.
Vous vous retrouvez à chaque fois au début, voilà, c'est comme être pieds nus devant l'Himalaya et se dire, mais comment j'ai fait pour en écrire 10 alors que, voilà.
Et on peut pas s'empêcher de lire le livre. Quand on parle de phrases mises en exergue, il y a cette phrase d'Umberto Eco, ce qu'un auteur écrit, c'est un message adressé à quelqu'un d'autre.
Alors
forcément, on peut pas s'empêcher de penser, en lisant votre roman, en connaissant votre figure publique, le fait que vous vendiez énormément de livres et que la presse n'est pas nécessairement tendre avec vous.
Et qu'on vous le reproche presque de vendre.
Voilà, c'est un classique.
Que les critiques sont souvent assez acerbes. Ouais. Moi, je vous lis pour la première fois Guillaume Musso et en fait...
C'est un régal.
Je comprends pas les attaques. En réalité, je les comprends pas, mais peu importe.
Tout ça n'est pas très grave.
Voilà.
Hein, mais
je me demande dans quelle mesure vous ne délivrez pas.
Ça doit faire chier quand même un tout petit peu, franchement.
Oui, mais disons, une bonne critique vous rend heureux 5 minutes, une mauvaise vous contrarie 5 minutes aussi, et ça ne change pas votre vie. Non, vraiment, parce qu'il faut... C'est une sorte d'hygiène mentale de se dire, voilà, je suis pas là pour commenter les commentaires, toujours considérer que voilà, l'écriture, c'est un sport de combat. Alors d'abord, un sport de combat contre soi-même, mais en tout cas, vous êtes dans l'action. Et donc, les commentaires autour, si vous rentrez dans le commentaire du commentaire, finalement, d'abord, vous y laissez une énergie importante, et puis à 44 ans, enfin, vous avez autre chose à faire aussi. Donc,
mais vous répondez finalement à travers ce bouquin à certaines petites critiques, parce que on peut pas s'empêcher de lire ce double message sans cesse avec vous, avec cette mise en abîme dont on a parlé.
Sur le style.
Puis vous réglez quelques comptes sur voilà, le monde de la littérature, tout le monde veut être auteur mais personne ne lit, sur les éditeurs qui sont qui ont
tableau,
pas forcément des grandes
Excel.
Idées.
Qui voient
Alors c'est pas directement un règlement de compte, c'est en fait il y a plusieurs conceptions de la littérature qui dont le débat public s'oppose. Là pour qui effectivement le style est tout, et d'autres pour qui voilà l'histoire est importante. Vous en avez pour qui aujourd'hui il n'existe plus de vrai lecteur. Vous avez toujours ce truc de dire ah lui c'est pas un vrai écrivain, ou alors ça c'est pas de la vraie littérature. Et moi depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours énervé ça d'entendre les gens de me dire non mais attention Stephen King c'est pas de la vraie littérature, ou alors des profs quand j'étais au lycée qui me disaient non mais Barjavel ou Pagnol bof.
On disait ça vrai écrivain.
Mais oui, bien sûr, aujourd'hui il est dans la Pléiade, Romain Gary aussi a duré des critiques vraiment absolument dingues.
Mais c'est le temps qui fait qu'on entre ou pas dans une sorte de panthéon littéraire des gens. Mais au fond, on s'en moque un peu de savoir ça. C'est savoir si on est lu et si les gens prennent plaisir à vous lire. C'est pas ça.
Moi, j'écris toujours le roman que j'aimerais lire d'abord en tant que lecteur.
Non, mais j'imagine qu'en tant qu'auteur, on se pose la question aussi de la qualité de son écriture, de son œuvre, de son style. On s'interroge et on se dit bien, je fais plutôt du Hemingway que ça. Enfin, on essaie de se situer, non ?
Mais quand vous écrivez, vous savez
dans
très
style.
Bien.
On essaie de se positionner. Vous pensez quoi de votre style ?
Mais non, mais moi je me raconte d'abord. Alors, c'est pas moi en être le juge, moi, ma seule règle, c'est d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. Donc, je me raconte une histoire en me disant, bon, voilà, si elle m'intéresse, peut-être qu'elle va intéresser les autres. Et jusqu'à présent, il s'est avéré que oui.
Ouais. Plus de 32 millions de livres vendus. Il y a un moment où vous imaginez que ça plaît aux autres, quoi. Ça va.
Oui, voilà.
Ça détend. Ça détend. Et je suis totalement d'accord avec Leïla. Le plaisir de la lecture, la fluidité avec laquelle vous écrivez, et puis surtout vous nous embarquez.
On est prêt tout de suite.
Ah ouais. Non.
La fluidité du style. Ouais, c'est une sorte de politesse par rapport au lecteur. moi, j'ai été prof pendant 10 ans, et vous savez, j'ai toujours essayé de faire court pour la classe entière. C'est très facile de faire court pour les 10 élèves du premier rang, beaucoup plus compliqué d'amener avec soi les 35 élèves de la classe. Mais voilà. Et pour écrire, c'est pareil. Je pense que c'est assez facile d'écrire pour 500 personnes. Beaucoup plus compliqué de se dire, voilà, je vais essayer d'écrire pour le maximum.
C'est pas facile d'écrire pour 500 personnes. Ce qui est difficile, c'est de se trouver en tant qu'auteur. Et moi, je crois que c'est très différent. Il y a ceux qui écrivent pour trouver une cible et pour plaire à des gens. La démarche est tout aussi louable.
Là, c'est du marketing.
Quand on écrit pour être lu par tous, pour s'adapter à tous.
C'est pas pour.
Je suis désolée, mais pardon. Je ne comparerais pas l'activité d'un enseignant qui s'adresse à une classe et qui doit prendre en compte la diversité de ses élèves à celle d'un auteur. Un auteur, c'est une activité artistique. Donc, on fait ça aussi parce qu'on cherche sa voix, parce qu'on a envie de dire des choses, de raconter des choses.
Mais il écrit le livre qu'il aimerait lire. Ouais.
Non, il parle du style et que le style doit être accessible à tous. La question, et dire que on va pas non plus traiter ceux qui vendent que 500 bouquins différemment.
Ah non, moi je les traite pas. C'est pas ça du tout.
Même s'ils sont pas lus par beaucoup,
choix. C'est un choix artistique qui est de dire voilà, j'essaye d'avoir un style accessible parce que pour moi c'est une politesse par rapport au lecteur.
Mais ça sous-tend que les autres sont pas polis, Guillaume Musso, du coup.
Pas vraiment, non. ça sous-tend que c'est ma vision. Voilà, c'est un choix qui.
Oui, donc c'est votre choix. C'est pas une politesse.
Voilà. C'est une politesse. C'est une. Quel mot
Parce que ceux qui écrivent de façon un peu plus hermétique ne le font pas pour être impolis.
Ils sont pas impolis, mais
c'est des beaux fumiers quand même.
Vous savez que vous êtes davantage.
Il y a des auteurs qui sont prétentieux avec leurs plumes immédiatement, qui vont employer des mots qui sont allés chercher dans le dictionnaire genre. Quoi.
Mais dans un sens comme dans un autre, il y a des gens qui sont des magots avec leurs lecteurs. Donc la question, elle n'est pas là. C'est juste d'exprimer sa voix. La littérature, c'est un art en soi.
On est d'accord.
Voilà, et c'est de se dire qui on est finalement à travers ce qu'on écrit.
Ça définit votre personnalité et voilà.
C'est une identité,
bien sûr.
Des gouttes de sang qui coulent de la plume d'un stylo encre. Là où je suis choqué, c'est qu'il y a quand même une boussole qui n'indique pas le sud-est.
Eh oui, on est bien d'accord. Je vais la refaire faire pour les tirages.
Non,
suivants.
On est d'accord.
Bah oui, bien sûr.
Bah évidemment que c'est sud-est.
Bah bien entendu.
Bon, ok, d'accord. Bon, bah alors, j'ai plus rien à dire. Maréchal, ça va être un succès.
Ah, c'est déjà
bah, oui.
Un immense succès et qui va aller s'amplifiant. D'ailleurs, Nagui, comme vous le disiez à GNB, notre rédac-chef, qui juste avant l'émission venait de vous résumer en quelques secondes ce livre de 348 pages.
Traître.
Vous lui avez dit donc, de toute façon, Guillaume Musso, même s'il sortait un bouquin rassemblant la liste de ses courses ou celle de mes procès pour harcèlement, ça se vendrait comme des petits pains. Mais voyez-vous, cher Nagui, je pense que le succès de la ville secrète des écrivains n'est pas acquis d'office sur la simple renommée de Guillaume Musso. Mes compliments, monsieur. Non, ce succès est dû aux qualités narratives intrinsèques de ce roman, dont l'intrigue palpitante est tissée de rebondissements, vous l'avez dit Nagui, et de mises en abîme aussi inattendues que rédigées d'une plume alerte. Ah putain, qu'est-ce qu'il attend Jérôme Garcin pour m'engager pour enfin dire du bien de votre œuvre dans son émission Bobo Culturo Gaucho Intello Télérameau balle dans le dos. Mais surtout, ce qui m'a plu dans la vie secrète des écrivains, c'est qu'on n'y a pas affaire à des flippettes. Je pense notamment à l'écrivain Nathan Foles, c'était au début d'émission. Non seulement ce type a de bonnes références littéraires, on a cité quelques-unes, mais surtout, c'est à coup de fusil à pompe Remington Wingmaster à double bras coulissant qui dissuade les fouilles-mères de venir fouiner chez lui. Et ça, ça me plaît. Comme sa façon de parler. Tenez, page 136, vous pouvez vérifier, cette phrase au style lapidaire, indirect libre. Il s'était fait piéger comme un bleu bit. Ah, belle couleur. Ça sonne comme du ganache. Page 185 de ses lettres à cet écrivain, il est dit...
Vous avez ouvert toutes les pages, Maréchal?
Oui. Ah ben, je l'ai lu intégralement oui, avec et crayon à la main. J'ai pas le bouquin sur moi, il est resté dans ma mallette. Il est dit...
mallette.
Il est dit que ce thème de la guerre les imprégnait toutes. Et ça, ça me plaît. Mais ce qui me plaît aussi, ce sont les citations, on en a évoqué quelques-unes, qui émaillent ce bouquin, notamment celle-ci de Milan Kundera, c'est page 85. Écoutez bien.
Oui,
l'intervieweur vous pose des questions intéressantes pour lui, sans intérêt pour vous.
Allez.
De vos réponses, l'intervieweur n'utilise que celles qui lui conviennent.
Allez.
Troisièmement, l'intervieweur les traduit dans son vocabulaire, dans sa pauvre façon de penser.
Allez.
Et ça aussi, ça me plaît qu'un tel hommage soit rendu à Nagui. Bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nagui.
Et en même temps, celui qui répond aux questions, si on reprend le précepte d'Italo Calvino, Guillaume Musso,
oui.
C'est ne pas répondre ou mentir. Donc finalement.
Oui, c'était ce que disait
on est quitte.
Calvino. Oui. Non, moi, je suis assez fasciné par ces écrivains, que ce soit Kundera, Salinger, qui sont mis en retrait par rapport à la presse et qui finalement ont trouvé des degrés de liberté en s'affranchissant du rituel de
mais
promo.
En disant ça, Guillaume, ouais. Vous voyez bien que vous leur donnez plus d'importance qu'ils n'en ont sur vous, puisque vous en parlez et que vous dites « j'admire ceux qui ont pu prendre de la distance vis-à-vis de la presse ». Ça veut bien dire qu'elles vous
ennuient. C'est des grandes figures de l'édition, de l'écriture, et qui m'ont servi à construire effectivement ce personnage de Foles.
Pourquoi avez-vous ressenti le besoin, qui est très intéressant pour le lecteur, de finir le roman en décrivant ce qui était la part de vrai, la part de faux. Notamment, je ne sais pas si on peut en parler, je vais juste dire l'appareil photo. Est-ce que ça, c'était...
Oui, parce que...
Aussi, on peut le raconter, l'appareil photo, sans dire...
Attention comment tu racontes.
Attention comment je raconte.
Ouais.
Bon, alors c'est l'histoire d'un appareil photo.
c'est
l'histoire d'un mec qui met un pied dans l'eau. Il met deux pieds dans l'eau. Non, c'est l'histoire d'un appareil photo qui est perdu par un couple en vacances à l'autre bout du monde. Voilà, lors d'une plongée d'ailleurs... Sous-marine dans son étui protecteur waterproof, et il se retrouve, comme il est perdu, il se met à dériver pendant des mois ou des années, et il se retrouve un peu plus loin à Taïwan.
Il se retrouve beaucoup plus loin, à Taïwan. Voilà. Et il est retrouvé effectivement
par des Américains qui
vont l'oublier dans un avion.
Pour
et
New York.
Voilà, et finalement, et tout ça est vrai, tout ça est un...
La seule différence que l'on peut dire,
c'est le contenu.
La seule différence c'est ce qu'on en fait de cet appareil photo. Soit il est vendu au puce et il y a quelqu'un qui le récupère en disant c'est bon, j'ai chopé un appareil pas trop cher, on va voir s'il fonctionne. Soit il y a un côté investigateur et que l'on a tous un tout petit peu quand on voit un vieil objet, c'est de commencer à rentrer dans la vie des autres et de dire il y a eu il y a quoi comme photo dedans, qu'est-ce qui a été écrit dans ce livre, qu'est-ce qui est dans il y a un petit coffre, qu'est-ce qu'il y a comme objet caché dans ce coffre, ça raconte quoi comme histoire, et c'est ce qui se passe. Les photos sont entre guillemets développées, les photos numériques sont vues.
Moi j'ai les deux questions qu'on me pose tout le temps de la part des lecteurs, c'est d'où vous vient l'inspiration et y a-t-il une part d'autobiographie dans vos livres. Et là ce livre c'est un peu une réponse à ça, et c'est dire voilà, je vais vous faire pénétrer finalement dans le making of d'une histoire, de l'inspiration, et à la fin je vous donne mes sources, je vous dis voilà l'histoire de l'appareil photo, j'ai lu ça il y a 6 ans, c'est un article de journal, c'est un truc qui existe vraiment, il y a c'est comme génial. Ça une liste, voilà, c'est et c'est en fait voilà j'ai une banque de situations dans ma tête qui m'aident comme ça à construire les histoires, mais parce que je me
ça veut dire que vous lisez la presse régulièrement pour à la recherche vous traquez les histoires,
curieux d'absolument tout et c'est
on se rend même compte que la réalité va plus loin que la fiction par souvent quand on lit souvent, des choses comme ça.
Bien sûr. Et depuis que j'ai 15 ans, tous les matins, je me lève en me disant voilà, quelle idée d'histoire tu vas avoir aujourd'hui. Donc c'est devenu une seconde nature d'essayer de trouver comme ça des petites étincelles et parfois vous en avez une et vous savez que c'est pas le moment de faire ça, mais vous la stockez. Moi j'ai toujours cru voilà qu'un roman réussi c'était comme une histoire d'amour réussie. L'histoire d'amour réussie c'est vous rencontrez la bonne personne au bon moment, et un roman réussi c'est vous avez une bonne idée mais vous êtes dans un moment de votre vie où vous allez être le plus capable de pouvoir l'exploiter de façon juste.
La bande originale de Guillaume Musso, il y a de la musique présente également dans le livre. La vie secrète des écrivains, c'est chez Calman Levy, on l'a pas cité d'ailleurs. Ouais. C'est un nouvel éditeur ou ça a toujours été le même?
Non, c'est un nouvel éditeur depuis 2 ans.
Depuis peu.
Voilà.
Ça sent le transfert.
Très bon éditeur.
Mbappé avant l'heure.
La bande originale donc de Guillaume Musso, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, voici l'humeur d'Agnès Hurstel.
Hello. Je suis un monstre. Ah je bon sais que vous le savez déjà. Sais, ouais. Si je suis sale, si j'ai des cernes aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis levée à 4h du matin.
T'as surtout un t-shirt où il y a marqué croque-monsieur dessus.
Je sais pas pourquoi. C'est pas parce que je me suis levée à 4h du matin pour aller pêcher en haute mer, puis que j'ai écouté la matinale tout en préparant des biberons pour des enfants en bas âge. Je ne travaille pas de nuit, je ne suis pas gogo, je ne fais pas non plus de terreur nocturne à l'idée de redémarrer la semaine et de vous revoir parce que vous ne me faites plus peur. Depuis quelques jours.
On s'habitue à tout. Hein.
La vérité même, je vous aime bien. Non, j'ai des cernes parce que je n'ai pas fermé l'œil du week-end à cause d'une longue rave party que mes voisins ont organisée tout le week-end. Pire qu'une rave, les 20 ans de leur enfant.
Aïe.
C'est-à-dire que pendant des heures et des heures et des heures sans relâche, il y avait de l'autre côté pile de mon oreiller tout doux, comme une cinquantaine de gremlins dégénérés, dégoulinant à mon avis le déodorant Axe cuir cookie.
Ou le sébum.
Et l'eau précieuse anti-sébum, qui se sont retrouvés dans un salon à demi éclairé, et qui se sont checkés, check, bro, tonton, oh la papy mais qu'est pas ça, yo, check, et qui ont toute la nuit littéralement hurlé, de rage, hein, parce que j'ai pas d'autres mots, c'était pas de la joie, c'était vraiment de la haine, toutes les paroles de toutes les chansons qui passaient. Aya Nakamura, Orelsan, Angèle, Booba, Sardou, Beyoncé, vraiment, ils m'ont tout fait.
Ah, carrément.
Un genre de n'oubliez pas les paroles, mais en pleine fête de Bayonne avec des vachettes sous speed.
Oui, oui.
Un genre d'interville auditif pour mon inconscient à demi endormi. En tout cas, même mes boules qui est tremblaient au son des basses. Et je dois avouer un truc, c'est que je suis jeune. Je suis censée être cool, hein, tu vois. Je suis censée aimer me coucher après minuit. Je suis censée écouter PNL. Je suis censée comprendre les paroles de ce qui passe à la radio. Par exemple, je suis censée savoir ce que ça veut dire. Pookie, ferme la porte. Il y a la Pookie dans le sas.
Ouais.
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je comprends qu'il faut que je ferme la porte.
Ça, c'est Aya Nakamura.
Je ne sais pas pourquoi il faut que je ferme la porte. En fait, je me rends compte vraiment que dans ma tête, j'ai 53 ans. Je me sens émotionnellement ménopausée. Mais depuis toujours, hein, c'est-à-dire que apparemment, même à 7 ans, quand on passait dans la rue avec mes parents devant des gens qui fumaient, je faisais. Il paraît que j'avais toujours une petite laine sur moi. Enfin, je suis insupportable, mais j'essaye de me soigner. Donc là, par exemple, pendant cette longue fête satanique, j'avais plusieurs options. J'aurais pu enfiler un crop top.
Ah ouais.
Enfin, me couper un t-shirt pour aller les retrouver, aller sonner à la porte et m'enjailler avec eux, prendre de la weed, je sais pas. Alors j'ai appris le mot enjailler il y a 3 jours, du coup je l'emploie énormément.
C'est enjailler. Vraiment...
Ouais voilà, c'est un truc de Jones. Je crois que c'est super grave que j'ai dit Jones. J'aurais pu aussi rester dans mon lit et sourire en repensant à mes 18 ans tellement géniaux et me dire voilà, laissons-les kiffer les gremlins. Je veux dire la précarité, la solitude et les vergetures arriveront bien assez vite sur ces petits foufous. Laissons-les profiter de ces derniers instants de naïveté et de Malibu ananas et d'herpès
cocale.
Et en fait, j'ai pas fait ça. J'ai fait un truc horrible. J'ai prié.
T'as appelé la police?
Non, non. J'ai prié pour qu'un voisin appelle la police.
T'as même pas le courage.
J'ai la preuve que j'ai vieilli. Si tu veux. Avant, au moins, j'étais réac, mais avec panache. Je faisais les trucs horribles moi-même. Et là, voilà, je suis ménopausée. Bonne semaine.
Merci, Alia Surstel.
On m'a s'enjailler, c'est ça?
Ouais, s'enjailler.
Elle vient chanter dans Taratata, ça, Pouki.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ouais, tu l'as dit, j'ai dit.
Bah ouais. La bande originale maintenant de Guillaume Musso, je suis pas sûr que ça passe par Aya Nakamura. Ça va commencer dans les années 70, où nous allons redescendre dans le sud-est, donc à Antibes, et où à la maison, on devait écouter.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les
Brassens, c'était la BO de la maison.
Ben voilà, c'était ça, c'était la bande originale de la famille. Et je retiens plusieurs choses. C'était d'abord la chanson La mauvaise réputation parle finalement du regard des autres. Assez tôt, j'ai eu l'intuition comme ça que je m'émancipe de ça.
Et des langues d'eux, quoi.
Oui, voilà. Et je crois que ma plus grande force jeune, ça a été de me dire, voilà, non, mais essaye, tu vas pas mener ta vie à travers le regard des autres. Et je l'ai gardé, je pense que ça m'a évité de bien des tourments. Et dans Brassens, il y a aussi la méfiance par rapport au groupe. Vous savez, dès qu'on est plus de quatre, on n'est qu'une bande de cons, dit Brassens. Et la méfiance par rapport au groupe, c'est le fait, voilà, toujours été très marqué par le combien les gens peuvent changer une fois qu'ils sont en groupe, voilà. Et ça m'a toujours fait assez peur, ça. Et donc, Brassens, je continue à l'écouter. C'est
bien écrit.
Absolument, ouais. c'est des chefs-d'œuvre.
Et autre force de l'enfance, c'est que vous nouez un contact charnel avec les livres très tôt. Votre mère dirige la bibliothèque municipale
à Antibes. Donc je passe mes vacances.
Le bouquin, c'est le quotidien.
Là-bas, je passe dans la réserve en plus. Donc, il n'y a aucune fenêtre, c'est là où sont pilés tous les livres qui ne sortent pas.
Il y a l'odeur.
Voilà, il y a l'odeur, il y a bien un peu tout. Voilà, et ce contact charnel dans cette cathédrale un petit peu de papier me fascine et je passe effectivement, je fais des marathons de lecture. Mais ça n'empêche pas aussi d'aller à la plage avec des copains. Hein. C'est assez. J'ai toujours eu ces deux aspects.
Mais en tout cas, au début, c'est plutôt les bandes dessinées. Et c'est encouragé à la maison. C'est pas condamné en disant ce n'est pas la bonne lecture.
Mais non, voilà. Moi, j'ai une mère qui n'est pas du tout snob et qui m'a toujours dit que je savais que tu viendrais au roman. Je sais que tu. Mais lis les classiques, mais lis aussi Stephen King, Barjavel, lis Proust et Flaubert, mais lis.
Vous les citez d'ailleurs, ces auteurs dans le roman.
Et c'est vraiment, ça a été une force, et ça a été de même au cinéma. On allait aussi bien voir Kieslowski, Théon, Angelopoulos que les films du Splendide ou des comédies. Et c'était, ma mère me disait toujours, voilà, prends du plaisir dans la culture, dans toutes les cultures.
À 26, 27 ans, vous écoutiez. 2000 ans.
Oui.
Vous avez quelles images en entendant cette musique?
Alors, 2001, c'est...
R.E.M.
Ouais, R.E.M. Alors, c'est une chanson que les gens interprètent mal souvent parce qu'on pense que c'est une chanson qui parle de perdre sa religion, alors que c'est une chanson d'amour qui vient d'une phrase, une expression... Losing my religion, ça veut dire en fait, voilà, j'ai la tête en vrac où je suis complètement
chamboulé, ressoulé,
voilà. après un chagrin d'amour. Parce que la fille ne me voit pas, parce que et c'est l'époque voilà où je commence à envoyer mes manuscrits et où mon premier livre va être adapté, enfin va être accepté.
Skida Marink.
Oui voilà, c'est une sorte de Da Vinci Code avant ouais. l'heure.
C'est-à-dire quatre personnes reçoivent une part de la Joconde déchiquetée.
La Joconde est volée au Louvre, déchiquetée. Quatre personnes qui ne se connaissent pas en reçoivent un morceau. Ils se demandent mais pourquoi moi? Et c'est une enquête assez drôle et qui a les défauts d'un premier roman, mais qui a aussi la fraîcheur et le caractère jubilatoire.
Et la presse l'avait reçu comment?
Plutôt bien. et les lecteurs, par contre, n'étaient pas tellement au rendez-vous. Mais ça m'a fait du bien que mon premier roman ne fonctionne pas, parce que ça m'a apporté davantage d'humilité et ça m'a fait goûter la chance après voilà, ouais. d'avoir des lecteurs.
Est-ce que maman avait été la première lectrice?
Oui, pendant longtemps, c'était effectivement la première lectrice. Et alors, elle a cette qualité de pas être en adoration devant son fils. Et donc, de me dire, voilà, d'être de très très bons conseils. Elle m'a fait retravailler.
Non, c'est par adoration qu'elle est objective. Mais
exactement, voilà, absolument.
Et j'ai vu que vous alliez racheter les droits.
Oui, de ce livre.
De votre propre livre, pour le réécrire.
Oui, alors,
vous avez dû négocier.
Le réécrire ou de le sortir, en fait ce roman n'est plus accessible, disponible ouais. et je vais le ressortir un jour, mais plus pas en faisant croire que c'est un nouveau livre,
ouais, ouais.
en disant voilà c'est
le roman, c'est une nouvelle édition,
voilà.
Mais en corrigeant des choses ou en le publiant ouais. tel quel?
Je ne sais pas encore, voilà, il y a les deux, je travaille sur les deux options.
Colorier les l'intérieur des hauts,
pourquoi pas, oui.
En 2003
cette idée, et c'est génial.
En 2003, vous écoutez.
Tu vois qu'il est malade.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde à écrire, en fait? On recolle.
Colorie Léo. Eric Clapton, Tears in Heaven. Il n'a pas eu une vie simple,
oui,
lui.
Non, hein, non, chanson sur le deuil, écrite après la mort de son fils Connor. Et...
Mort tragique, son fils est tombé de 50 étages à New York.
À New York, ouais. Il était sous la surveillance de la nounou.
Et une fenêtre est restée ouverte.
Oui, oui. Et d'ailleurs, ça a entraîné après, ils ont changé, la ville de New York a changé les règles par rapport
à l'ouverture des fenêtres.
Ouais, absolument. Ouais. Et alors, cette chanson sur le deuil fait écho, en fait, à mon premier roman qui va rencontrer le succès, s'appelle Et après. C'est un livre, finalement, qui est assez sombre. C'est un livre sur le deuil, mais avec un argument surnaturel. Parce que pendant longtemps, je trouvais que le surnaturel, c'était une façon de parler de façon ludique de thèmes assez graves. Et la première fois que j'ai montré ce livre-là à un éditeur, il m'a dit « Bon, c'est bien, mais ça ne marchera jamais parce que c'est trop triste. »
L'histoire d'un enfant revenu,
revenu
de la mort.
Un enfant qui se noie et finalement qui est sauvé in extremis, mais sa vie va être différente. Et ça prouve qu'on peut écrire des romans avec un deuxième niveau de lecture grave et rencontrer pour autant.
Il y a des scènes, des scènes encore d'horreur dans La vie secrète des écrivains avec.
Oui, c'est pas toujours.
Avec aussi des enfants victimes.
Oui.
Et puis des zones de guerre aussi, le Kosovo.
Oui, Kosovo.
On va revenir dessus. Ouais. En 2007, vous écoutiez Paolo Conte.
L'amour était. Parla di sé in un bello sguardo, la percezione in cui mi perdo.
Et là, ça vous renvoie quelle ambiance,
la rencontre avec ma femme, mais surtout, ça me renvoie au fait.
Ah, c'était triste, vous voulez dire.
Non, c'était en fait.
C'est pas joyeux.
Non, mais cette chanson qui est un chef-d'œuvre, enfin, montre que voilà, l'amour, c'est à la fois des émotions puissantes, positives, mais que la mort peut aussi vous entraîner dans un état complètement down. Il peut vous tuer. Donc l'amour, c'est de la nitro. Glycérine. Moi, je pense.
Vous avez quand même dit de la mort au lieu de dire l'amour.
L'amour, ouais. La mort, donc une lettre de non, différence.
C'est en italien, on dit l'amour.
Oui,
mais là, ce lapsus, c'est dingue, parce que vous avez dit.
Mais oui.
La mort peut mener à des choses graves jusqu'à.
Je pense comme une très belle phrase de Christian Bobin qui dit c'est toujours de l'amour que nous souffrons, même quand nous croyons ne souffrir de rien. Et je pense que dans nos vies, dans nos actes, finalement, si on creuse, à chaque fois, on remonte. à la source, et la source, c'est toujours l'amour, c'est le manque d'amour. Ouais.
Et 2007, vous arrêtez l'enseignement, un peu, oui. C'est un peu un crève-cœur.
C'est un crève-cœur, oui, parce que j'ai toujours aimé ça. J'avais choisi de devenir enseignant vraiment par conviction. Oui. Ouais, j'avais réussi plein d'autres concours et je vois bien que je peux pas continuer parce que je peux pas ne dormir que 3 heures par nuit. Mais je compte bien y revenir un jour, peut-être par le biais de masterclass, d'ateliers d'écriture.
Et puis qu'est-ce que vous avez avec cette robe de chambre tout le temps dans les interviews? Vous parlez de l'écrivain, vous faites le tableau le moins sexy que je connaisse. Quoi. C'est-à-dire, dans le bouquin, c'est le cas, on mange de la pizza froide, on est un zombie, on est en train d'errer en robe de chambre.
Alors bon, moi je m'habille, j'essaye de me tenir. Non, c'est une conversation
que
j'avais
eue. Pourquoi se doucher et s'habiller quand on sait qu'on va croiser personne?
Oui, c'est assez...
Que soi.
Par rapport à soi, voilà. Et c'est une conversation que j'avais eue il y a quelques temps avec Jean-Christophe Granger qui m'avait cité effectivement l'image comme ça de l'écrivain en robe de chambre avec la quiche froide, et j'avais adoré ça. Il avait dit, je peux te piquer ça. Il m'avait dit ok.
Bah, Balzac était en robe de chambre, il avait les dents pourries.
Donc vous échangez entre auteurs.
C'est un privilège de pouvoir côtoyer certains auteurs qui en plus que j'aime bien et d'échanger. Ouais.
Avez-vous l'adresse de Grégoire Delacour?
Je l'aime beaucoup, ouais.
Vous avez l'adresse de Grégoire Delacour?
Ouais.
Non, parce que c'est souvent une question qu'on lui pose à lui. Ah, avez-vous l'adresse de Guillaume Musso? Donc je voulais savoir si vous aviez...
Mais oui, on se connaît bien et on s'apprécie beaucoup.
Et il sera là avec nous vendredi. Ah,
vendredi, exactement.
Et son dernier livre est très très fort, hein, vraiment, voilà. Mon père, ouais.
Nous recevons Hubert Artus. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes écrivain, journaliste littéraire, notamment à Lire et Cosette. Vous avez écrit la biographie de Maurice Dantec, Prodige et Outrance, aux éditions Séguier.
Autre écrivain secret.
En 2018, justement, la vie secrète des écrivains, est-ce que finalement, il vaut mieux pas la connaître, cette vie secrète des écrivains, parce que ça peut être décevant, on imagine des trucs totalement, on fait des fantasmes autour de ces vies.
On est forcément déçu, mais on est surtout surpris. Et de toute façon, on a forcément envie de savoir les coulisses des choses qu'on aime. Alors, celles et ceux qui aiment la cuisine ou les saveurs, ils ont envie de savoir comment un épice a été trouvé. Donc, ils s'intéressent aux voyageurs, aux grands marcheurs. Ceux qui aiment le football, ils sont plus jeunes, les footballeurs et les footballeuses. Mais et au bout d'un moment, il y a des choses à décapsuler, à connaître, des zones d'ombre.
Non, mais ça, on aime les histoires.
Et on aime les histoires. Mais alors, un écrivain,
est-ce qu'on a envie de savoir comment il vit, comment il écrit ou comment il a eu son idée?
Je pense que forcément, parce que on est à la littérature, c'est parmi ces choses où c'est un art du dépassement. Donc, on a forcément envie de savoir ce qui fait qu'un être humain qui a priori est comme nous, sauf que dans notre inconscient, il est mieux que nous puisque lui, il est écrivain. Qu'est-ce qui fait qu'il est... Non, c'est pas la question de l'inspiration, c'est qu'est-ce qui fait qu'il est capable de descendre à ces profondeurs-là de lui-même? Ou alors d'avoir ce regard sur le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle case il a en plus que moi? Quand on écrit un livre, quand on réalise un film, quand on réalise des rêves... Quand on est un artiste, on découvre une pièce de sa propre maison qui a toujours existé, sauf que dans cette pièce, on y entre pour la première fois. Et donc forcément, le profane, il a envie de savoir mais comment est-ce qu'on fait pour trouver la clé qui ouvre la porte de cette pièce que moi aussi j'ai.
Il faut qu'il y ait une blessure, il faut qu'il y ait une fêlure pour être un artiste.
Il faut qu'il y ait un dépassement, il faut qu'il y ait une folie, il faut qu'il y ait une blessure. On a tous des blessures, des casseroles, des comptes à régler. Ah, alors ça. On les règle de manière plus ou moins cynique, plus ou moins malicieuse, plus ou moins rusée, plus ou moins vengeresse. Voilà. Il y a un dépassement. Et moi, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai aimé ce roman de Guillaume Musso. Je dois avouer, mais je l'avoue parce qu'il le sait, que je ne suis pas dans les journalistes qui ont toujours craché sur Guillaume Musso, mais je ne suis pas non plus dans celles et ceux qui ont toujours aimé Guillaume Musso. Et une des raisons pour lesquelles j'ai aimé ce livre-là, c'est que c'est le plus kundérien, c'est qu'il parle d'Europe de l'Est, et ça rejoignait, on en a déjà parlé, des recherches que j'ai fait sur Maurice Dantec, qui lui aussi avait été sur place. Et il y a pour la première fois, à mon sens, chez Guillaume Musso, et là on commence à quand même passer plusieurs strates d'un coup, du cynisme, donc un humour, et de la malice. Et moi, j'ai pas vu ça tout le temps chez Guillaume Musso. Et c'est pour ça que ce livre-là, je le trouve bien. Et universel, donc bien.
Revenons au secret.
Merci Hubert,
au final.
Ça s'arrête dans une demi-heure. Pour en revenir au secret, le plus secret de tous les auteurs.
Alors, on a toujours tendance à considérer Salinger comme le plus secret, parce qu'effectivement, pendant très très longtemps, on n'a pas du tout vu sa photo. Pour moi, c'est Pynchon, parce que Thomas Pynchon, qui apparemment sera encore vivant, donc déjà le « apparemment » que je dis, voilà, il est quand même né dans les années 40. Américain également, Contre-jour, Mason and Dixon, etc., dans les années 60 et 70. C'est non seulement on ne connaît pas son image depuis au moins 20 ou 30 ans. Mais en plus, c'est un de ceux qui a été, et là, on rejoint la malice, parce que c'est quand même extrêmement important d'être rusé, d'être malicieux, c'est que c'est quelqu'un qui a pris des masques. C'est quelqu'un qui est copain avec des producteurs à Hollywood, etc. Et en 2000, il a joué et prêté sa voix à deux épisodes des Simpsons, où il y a un personnage qui s'appelle Thomas Pynchon, mais évidemment, on ne connaît pas son visage. Donc, c'est un écrivain qui s'appelle Pynchon, et il a un espèce de sac, vous savez, de McDo, sur la tête, en papier craft. Et il apparaît sous son propre nom avec sa voix. Voilà. Pour moi, ça, c'est le soir même. Parce que la raison pour laquelle on est fasciné par les questions qu'on est en train de se poser, c'est que depuis l'ère de la télévision, on est dans la société du spectacle. Et à mon sens, un écrivain sait jouer de la rareté, de la surprise, il sait aussi jouer avec la société du spectacle. À en disparaître comme Pynchon, ou alors à en surapparaître comme Houellebecq le fait. Houellebecq, en 2015, il apparaît, il va à l'émission sur France 2 de Laurent Ruquier, etc., alors qu'il n'a pas de roman, et il réussit à être c'est la rentrée 2014, 6 mois avant Soumission. Il est sur tous les plateaux de télé, alors qu'il y a un roman sur lui. Il joue dans un film de Guillaume Niclou, dans le téléfilm de Kervern et d'Elépine. Il n'y a pas de roman de Houellebecq, mais il apparaît partout à la télé, alors que voilà. Et il faut savoir jouer avec.
Il y a Elena Ferrante aussi plus récemment, dans le côté mystérieux aussi, dont on ne connaît pas l'identité. Il y a une forme de traque même ou d'enquête qui est menée par les critiques littéraires pour déterminer qui est cette femme, si c'est une femme. Et ça, c'est aussi une façon de se dire qu'il y a tellement de livres aussi qui arrivent sur le marché.
C'est vrai que Labrou avait écrit un livre en faisant croire dans un premier temps que c'était une jeune fille de 13 ans. Les cornichons
au chocolat.
Garry et Hajar.
Et bah, c'est le mythe, et on rejoint la ruse et la malice.
Mais on a la sensation qu'aujourd'hui, justement, pour exister un peu plus sur le marché, il faut autre chose qu'un bon livre, parce que il y en a tellement, les critiques ont pas forcément le temps de tout lire, donc il faut amener une sorte de supplément de.
Je pense aussi que les publics se sont diversifiés. Il y a plusieurs genres de lecteurs, et moi je trouve ça heureux. Donc il doit y avoir plusieurs genres de fiction. Il n'en reste pas moins qu'au bout d'un moment, un véritable artiste, un écrivain en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été capable d'avoir une véritable vision du monde, qu'elle soit politique, voyageuse, etc. Et puis aussi, et c'est là aussi où moi je pense là, après je vais arrêter, mais que Musso a gravi un échelon, c'est que il n'y a pas de littérature, il n'y a pas d'art. Alors je vais reprendre aussi Romain Gary qui disait ça, et Georges Bataille, mais il y a sans présence du mal, du côté obscur de l'être humain. J'aime énormément le roman noir, parce que le roman noir, c'est pas que des meurtres, du suspense, une enquête, c'est aussi sur la part sombre qui est en chacun de nous, occidentaux, orientaux, pauvres, riches, hommes, femmes, voilà, l'art, la fiction, c'est fait pour ça. Alors le roman aussi.
Elle a raison, Leïla, le fait de jouer avec ce côté masqué, on ne vous dira pas qui ils sont. Je pense au Daft Punk aussi, en termes de musique, ils se cachent. Banksy, graffeur, artiste. Exactement, aussi, il fait même des happenings en détruisant ses toiles, ses propres œuvres pendant une vente aux enchères. Sauf que le système s'est enrayé. Non seulement la toile n'a pas été totalement broyée, mais maintenant elle vaut 10 fois plus, évidemment, puisqu'elle y en a un bout, il y a un bout qui existe avec cet enfant au ballon, si j'ai bonne mémoire. Mais donc c'est ce côté masqué, caché, qui est un effet de com.
Happening,
c'est la performance.
Entre l'effet de com, le contre-pied, la performance, le côté arty, le côté illusoire.
Il faut pas oublier
l'œuvre.
C'est-à-dire les disques de Daft Punk seraient mauvais, et Banksy ferait des peintures pourries, ça marcherait pas.
Mais ça ne marche que sur les bons artistes. On parlerait pas de Daft Punk comme ça s'il faisait pas de la bonne musique. On parlerait pas de Thomas Pynchon s'il faisait pas des romans à ce point-là. Voilà.
C'est un supplément.
Ce qui préexiste, c'est avant tout un artiste dont les histoires, l'œuvre, les couleurs, le langage sur le monde, il y a quelque chose, il y a une âme, il y a un langage, il y a une nouveauté, donc il y a une curiosité, donc il y a une fascination.
L'œuvre est plus belle que son créateur, toujours.
jusqu'à qu'on connaisse le créateur. Alors parfois on est surpris, parfois on est déçu, mais de toute façon, ce qui préexiste à une œuvre, c'est de toute façon l'œuvre elle-même, c'est pas l'écrivain. Et après, on découvre que il y a une belle œuvre, s'il y a une belle âme, un être suffisamment méchant et gentil à la fois, rusé et vengeur à la fois, rusé et aigri, etc. Voilà, mais c'est toujours ça. Mais ce qui préexiste, et on ne se pose la question que pour celles et ceux qui ont un nombre de romans suffisant pour faire fascination et pour faire intérêt. C'est pas sur le premier roman ou le premier film, etc.
Merci Hubert d'être venu à ce
avec grand plaisir.
Journaliste, je rappelle, à lire également Cosette et votre dernier livre, la biographie de Maurice Dantec. On repart dans les Balkans, c'est ça, Prodige et Outrage aux éditions Séguier. C'était l'année dernière. Merci beaucoup. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Vous êtes dépassé intellectuellement.
Oui, encore quand je suis à la bande originale, ça va, je le sens pas trop. Mais en général, chaque jour qui passe nous rend plus bêtes si on se compare à quoi ? À l'intelligence artificielle. Celle-ci est capable désormais d'imiter notre voix, de fabriquer du whisky et de prédire qui aura une attaque cardiaque et quand.
Donc vous revenez après les infos de midi pour paraître intelligent.
Oui. S'il n'a pas une attaque,
c'est gentil. Arrêtez.
Bande originale avec Lina Kadoboudagi, Agnès Hurstel, Daniel Morin,
bonjour Agnès,
Albert Algou, bonjour Tanguy Passureau et notre invité Guillaume Musso.
Bravo.
Qui signe chez Kalman Levy, La vie secrète des écrivains. C'est gentil quand même de venir à notre micro parce que j'ai appris pendant le flash que vous étiez numéro un des ventes, toutes formes d'édition confondues. Donc vous n'avez aucunement besoin de faire la moindre promotion. Donc merci encore plus.
Mais merci pour votre invitation. C'est aussi une politesse par rapport aux lecteurs. On en revient toujours là de quand même, défendre son livre, en parler de façon... de façon apaisée.
Est-ce que comme Nathan Falls, je sais pas comment il faut penser à l'anglaise ou
comme,
pas.
Comme vous voulez.
Est-ce que comme l'auteur, en tout cas, qui est au centre de votre roman, vous avez de jeunes auteurs qui vous poursuivent, vous harcèlent, vous donnent des manuscrits en disant « corrigez-moi, dites-moi ce que je dois faire ».
Ça arrive, mais je suis toujours très embêté par rapport à ça. Quand j'avais 20 ans et que j'écrivais, que je regardais des émissions télé ou à la radio.
Pivot
ou autre. Où on demandait aux auteurs quels conseils donneriez-vous à un jeune auteur. Alors, je tendais toujours l'oreille, j'étais aux aguets, je sortais presque mon stylo pour noter ça. Et à chaque fois, les réponses étaient finalement assez plates. Et je me suis toujours dit, finalement, si un jour je passe de l'autre côté,
je me garderai de donner des conseils.
Mais oui, mais parce qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. Fait, il faut juste essayer de trouver une singularité, quelque chose que vous faites, non pas forcément mieux que les autres, mais que vous faites de façon différente.
France Inter est cité, je crois que c'est la Tête au Carré qui est...
Affaire Sensible.
Affaire Sensible.
Oui, je nourris pas mal de podcasts, et donc Affaire Sensible est bien, oui.
Et vous notez quelque part toutes les petites informations, parce que l'idée du papa qui tous les jours communique une nouvelle, qui apprend quelque chose...
Oui. Ça, franchement, c'est moi tous les matins en allant amener mon fils... À l'école, il faut que je lui apprenne un truc, il faut qu'on ait une discussion, et c'est le moment en fait pour moi le plus important de la journée.
C'est génial. C'est génial et c'est culpabilisant pour les papas non, enfin ceci dit. Et mettre une playlist ou écouter de la musique, c'est une manière de leur apprendre quelque chose.
C'est au sens très large, encore une fois, la culture au sens large, bien sûr.
C'est pas que A2-B2, quoi.
On est bien d'accord, oui, non.
D'accord. Voici Tanguy Passion. Tanguy, l'intelligence artificielle est une véritable révolution.
Oui, Nagui, l'intelligence naturelle étant globalement un échec, il y a quand même pas mal de cons, on a préféré en créer une artificielle parce que ça allait plus vite. Alors l'intelligence artificielle, il y en a dans tout. Les moteurs de recherche, par exemple, si vous tapez sur Google « faire un stage », le lendemain, le site vous proposera le parcours de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. Si vous tapez « panda », on vous renverra sur la billetterie du zoo de Beauval. Si vous tapez « sexe », sur un site porno. Si vous tapez « panda et sexe », sur une vidéo très gênante du panda du zoo de Beauval, cuisse écartée, tandis qu'il murmure grrrr, ce qui en panda signifie « Ah, Brigitte, oui !» L'intelligence artificielle, il y en a aussi dans les applis de navigation comme Waze, hein, qui calcule en temps réel le meilleur parcours. Exemple, un live de Beyoncé à Bercy, il vous fait éviter le coin, trop de monde. Un meeting de Nathalie Loiseau, il vous fait passer devant la salle. Mais mieux, une équipe de chercheurs finlandais vient de créer un algorithme capable de prédire la mort de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on prend vos données, fumez-vous, oui, non, buvez-vous, oui, non, si on entre celle de Depardieu, le système implose, et le machin vous dit, coco, c'est pour le 16 juin 2021, ensuite c'est rip toi-même, là il vous reste 2 ans pour faire tout ce que vous n'avez pas fait. Bruno Le Maire, par exemple, déboucherait un panaché Force 4 en murmurant, ouais, rock'n'roll. La précision de cette intelligence artificielle, attention, est de 90% parce qu'elle ne gère pas les choses imprévues que vous pouvez faire. À Fort Boyard, vous êtes invité, vous êtes chanteur, vous sautez, Olivier Mine n'a pas attaché l'élastique parce qu'il a détesté votre dernier album, paf, vous vous éclatez en bas, juste à côté de Felindra, qui déclare chouette super dîner pour Métique, ça va les changer des côtes de porc. Mais cette intelligence artificielle a pour but de prévenir les médecins, en fait, avant qu'il y ait un souci. C'est-à-dire que bientôt, l'hosto vous appellera, vous dira bonjour monsieur, vous allez faire une attaque le 2, vous répondrez arrêtez vos conneries, on est le 2, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Et le SAMU sera tellement en avance chez vous, acting, que les mecs seront sur le clic-clac en train de mater Motus, en se disant, bon, il lâche ce cœur, oui ou flûte. Alors, autre application incroyable hein, de l'intelligence artificielle, aux États-Unis, ce pays qui nous a donné les donuts et Donald Trump. Pour les distinguer, Trump, c'est celui dont le trou n'est pas au milieu, mais tout en haut, au niveau du cerveau. Aux USA, une start-up a réussi à reproduire à 100% la voix d'un acteur américain. Ils ont pris 1000 épisodes d'un podcast qu'il a fait, l'ordi a bossé, et arrive avec la voix du gonze à faire des chroniques à sa place. Et là, je dis oui, hein, parce que je pense à mon cas particulier. Ma grande passion dans la vie est de ne rien foutre, mais j'aime l'argent. Et ben, si j'ai ce logiciel, il peut me sortir 12 chroniques jour pendant que moi, je glande. Il analysera mes 2 ans de chroniques ici, notera les thèmes récurrents, Eddie de Préto, la Bretagne, la mort, le mot brosouf, Ariel Dombal, la dépression, la pilosité de Daniel Morin, le Xanax, et il fera un mix de tout ça. Mais cette technologie effraie certains parce qu'on pourrait utiliser une voix pour vous soutirer des informations. Exemple, votre 06 sonne, Nagui. Vous décrochez parce que vous êtes dispo. Je suis en train de faire ma chronique. Là, une voix vous dit « Salut bébé, c'est Delphine Ernotte, ta boss à France Télé. Tu peux me filer ton numéro de carte bleue, c'est pour te filer une prime. »
Évidemment, je réponds.
Eh oui, vous dites 49 70 22 42 18 15 65 07 expire 07 20. Seulement, paf, comme on dit, sauf les communistes qui disent pif, il s'agit d'un robot. Et là, vous perdez tout ce que vous avez.
Tu as gagné, celui-là.
Ah non, pas Pomine. Là, vous, qu'est-ce que vous me faites? Et là, vous perdez tout ce que vous avez, sauf votre femme qui est là pour votre physique. Et le pire, c'est que l'intelligence artificielle détruit des emplois, Nagui. Tenez, maître distillateur de whisky. Les mecs, jamais n'auraient pensé être remplacés. Hein, ils étaient allés à ricaner dans leur cave, en Écosse, en disant, ah, même pas en rêve, un ordinateur pourrait faire ce que je fais, en se frottant contre leur fût de chêne. Et ben, raté, puisqu'un whisky vient d'être élaboré par l'intelligence artificielle qui a intégré 70 millions de possibilités de whisky. Et là, on se rend compte que le whisky est un domaine extrêmement complexe. Pour aller sur Mars, il y a 2 fusées, mais si vous voulez boire un coup, on est sur un nombre de possibilités infini. Et le système a créé le whisky parfait, qui sera commercialisé l'automne prochain. Hein, pour le folklore, ils mettront un ordi habillé d'un kilt et qui joue de la cornemuse, et tout le monde y verra que du feu. L'intelligence artificielle est donc plus forte que nous, qui buvons du whisky dégueu juste parce que chez Leclerc, il faisait 3 bouteilles pour le prix de 2, qui sommes incapables de prédire une attaque cardiaque sur nous-mêmes. On dit « Ah, j'ai mal au bras, j'ai dû me faire ça au tennis. » Un copain vous dit « Ah, mais tu fais du tennis ?» On répond « Non, c'est pour ça, je comprends pas. » Et on clame comme une vieille buse. Quant à la voix, un système informatique est capable de nous imiter, alors qu'aucun d'entre nous n'arrive à imiter un système informatique. Parce qu'imiter des bits, c'est impossible. Patrick Sébastien pouvait faire ça en faisant semblant de mal comprendre le sens du mot, mais il a été viré par Delphine Ernotte. Ou peut-être un robot imitant Delphine Ernotte, on ne sait plus. Bref, tout ça, c'est de notre faute. Si on avait fait un effort pour être plus fut-fut, on n'aurait pas été obligé de tout déléguer à des machines. Voilà, c'est ma dernière chronique. Demain, c'est l'intelligence artificielle qui prend ma place. Enfin, ça va être bien.
Merci, Tony Passio. La bande originale, Mehdi, sur France Inter. À propos de d'alcool, c'est un alcool japonais qui est référencé dans votre livre.
La caractérisation des personnages, moi je fais toujours un gros travail sur voilà le background des personnages et surtout qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, quel est le prénom de leur grand-mère, qu'est-ce qu'ils aiment comme plat, qu'est-ce que... Et là, voilà, l'auteur en question a un faible pour le whisky japonais.
Nathan Falls, donc cet auteur, a succès, 3 énormes best-sellers, puis il est parti dans la fleur de l'âge, à une trentaine d'années, en arrêtant d'écrire, il s'est caché, ou vit reclus en tout cas sur une île, où il ne fait que aller faire ses courses tranquillement avec sa petite Mehari ou Minimoc, sur cette île, c'est vraiment référence varoise. Cette île de Beaumont qui se situe à quelques miles de hier, où il y a l'embarcadère. Et puis là-bas débarquent donc différentes personnes. Il y a une journaliste qui fait son enquête, il y a un auteur qui veut le rencontrer, il y a le libraire aussi, on ne sait pas très bien les rapports qu'ils ont l'un et l'autre, parce qu'il y a fait des dédicaces, mais ils ne se parlent plus, ils ne s'aiment plus vraiment. Et puis il vit dans une espèce de maison, la Croix du Sud.
Magnifique. Accroché à la falaise.
Voilà, presque une maison de James Bond qui a son garage à Riva, qui est un vieux bateau italien, un bateau de lac normalement, mais qui est un vieux bateau italien en bois, avec ce garage qui est totalement muré, alors que normalement il y a des hublots, il y a de la lumière. Lui, il vit avec de la musique un peu. On imagine les nuits
Variation
de tempête.
Goldberg,
voilà. Les nuits de tempête. Il y a le vent, il y a les arbres qui bougent comme des cadavres ou comme des victimes qui se débattent. Tout est très imagé. On y est
visuel.
On a le parfum, on a l'odeur, on a les embruns, on a cette ambiance là. Et puis il y a des citations qui font que vous pouvez peut-être vous poser des questions qui sont soulevées par John Irvine sur les personnages. Il dit: vous créez des personnages pour faire un bon roman, vous créez des personnages qui suscitent l'amour et la sympathie de vos lecteurs, puis vous tuez ces personnages et vous blessez votre lecteur, alors il se souviendra toujours de votre roman.
Ça, c'est assez pervers. C'est vraiment lorsqu'on posait à Irvine la question de savoir comment faire un bon roman, il disait: ben voilà, vous n'avez qu'à rendre un personnage sympathique au lecteur, vous le tuez comme ça après. Ça arrive dans les séries aussi.
C'est Game of Thrones.
Absolument, c'est ça.
Mais est-ce que vous posez la question de savoir, on ne va pas dévoiler ce qui se passe dans le livre, de savoir qui vous tuez ou pas dans le roman? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites non, pas lui, pas elle?
Parfois, dès le départ, je le sais, et parfois ça vient au cours du roman, de façon inattendue.
Là, vous tuez quelqu'un de sympa.
Pas pourquoi.
Non, mais le dis pas.
Faut pas spoiler, ça
triste.
Peut. Oui, alors, beaucoup de lecteurs, effectivement, qui sont j'adore ça. En fait, moi, j'ai toujours pensé que la littérature était un jeu qui se jouait à deux et que finalement, le roman, c'est une contribution entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et après, il y a ce dialogue. Mais comment, on m'a souvent dit pour un roman où j'avais fait mourir le personnage principal, on me dit souvent: mais comment vous avez osé? j'ai osé parce que c'est mon roman et c'est ma liberté de romancier.
On est Dieu dans ces cas-là?
On est Dieu, oui, on est un démiurge et c'est quand même ça qui a à la base de l'écriture. Pourquoi on écrit? On écrit parce qu'à un moment, vous avez envie de créer un monde tel que vous aimeriez qu'il soit et pas tel que le monde est vraiment. Je pense que c'est à la base, aux racines de pourquoi vous en venez à écrire.
Enfin, le monde, pardon, Guillaume Musso, le monde n'est pas fait d'autant de rebondissements. C'est-à-dire que toutes les deux pages, il se passe un truc.
De l'adrénaline, effectivement, dans un univers. Vous mettez de la... Voilà, vous distrayez vous-même.
Alors finalement, c'est marrant parce que dans le bouquin, vous faites dire à votre personnage, à Nathan Falls, que en gros, tu crois qu'en étant auteur, tu donnes l'illusion qu'avec ton stylo et ton clavier, t'es un démiurge et que tu peux rafistoler la réalité.
C'est ça.
Donc c'est tout le contraire.
Mais
parce que c'est dans le roman.
Voilà, on a envie
encore
de ça,
la mise
on a
en
envie
abîme.
De se dire voilà, je peux avoir une baguette magique. Alors, Woody Allen disait souvent, voilà, je filme New York tel que j'aimerais que New York soit et pas tel que New York est vraiment. Et ce pouvoir-là, et c'est pour ça qu'un scénariste n'a pas ce pouvoir. Le cinéma, les séries, c'est beaucoup de contraintes de budget, de casting, de lieux. Et un roman, vous êtes seul maître à bord et c'est enivrant.
Il y a aussi la façon de travailler des frères Cohen, de rester en suspens, c'est-à-dire de ne pas avoir une véritable fin et de laisser après le spectateur
écrire un petit peu lui-même. Il faut pas fermer toutes les portes.
Ce qui peut être frustrant par moment.
Faut enfermer certaines et laisser le lecteur faire aussi son travail.
Alors il y a aussi il y a pas que des crimes, des victimes et des coupables ou des assassins. Il y a aussi donc il y a cette enquête. Il y a des histoires d'amour. Il y a tout ce travail, cette approche du monde de l'édition, de la littérature. Mais aussi vous les rendez très humains, ces auteurs et ces écrivains. C'est-à-dire
qu'ils ont leurs faiblesses, avec leur côté. Mais je pense que on a tous en nous à la fois une face sombre, une face solaire et le roman, en tout cas pour moi, c'est essayer d'être. Je dis souvent, j'écris un thriller intime. Thriller intime, c'est vous êtes au plus près finalement des émotions et de l'intériorité de vos personnages. Il n'y a pas de cascade dans mes romans, il n'y a pas de violence gratuite.
Dès le début, on va rester avec Raphaël, que Leïla aime, est tombée amoureuse de Raphaël. Raphaël est ce jeune auteur qui va à la Croix du Sud alors que c'est défendu, il escalade, il rentre dans la propriété privée.
Il se prend un coup de fusil.
Et pas vraiment. Ça commence à tirer en l'air, puis à droite, puis à gauche. Et le mec continue d'avancer avec cette phrase formidable en disant, l'auteur qui a écrit tel et tel livre, l'oreille, ainsi de suite, ne peut pas être un salaud, ne peut pas tuer, ne peut pas tirer.
Il a une vision assez angélique, c'est-à-dire qu'il prête des qualités morales à l'écrivain parce qu'il a aimé ses livres.
C'est ça, et en risquant sa vie,
et ça trouble
d'ailleurs l'auteur en question, qui évidemment ne le tue pas.
Il y a une foi en la littérature qui le rend un peu aveugle.
Vous êtes un mec bien.
Et Fawlce est touché par le côté un peu naïf de Raphaël.
Alors qu'il y en a un qui est très très proche des saloperies qu'il raconte, c'est Daniel Morin.
Merci. Ça risque. Bon, c'est un secret pour personne. En football comme en radio, on est en pleine saison du mercato, la saison des coups de pression. Le week-end dernier, Kylian Mbappé nous a fait un beau petit coup de pression avec sa phrase « Je veux plus de responsabilités. Si c'est au PSG, tant mieux. Si c'est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau projet. » En clair, coucou, président Nasser, je veux qu'on voit mon contrat. Puis au PSG, quand tu demandes à voir ton contrat, on n'est pas dans une logique « Je travaille chez EDF ». À base de « Je veux plus de tickets resto, une prise en charge de mon pass Navigo, une pause pipi supplémentaire et 30 euros de plus par mois. » Là, on parle foot. On parle PSG, on parle quatrième, voire cinquième dimension sur la planète Pognon. Et le Kylian, il est chaud patate. Il a dû leur dire, les gars, le futur du foot, c'est moi. Alors, vous êtes bien gentil de donner plus de 30 millions par saison à Neymar, mais à partir de maintenant, il est hors de question que je gagne moins que lui. Moi, je manque pas un match. Lui, il se casse le pied tous les ans pour aller se dorer la pastille dans sa favela, pendant que moi, je continue à cavaler comme un lévrier.
Toujours en période de carnaval, t'as remarqué?
Toujours.
Il se baisse pour carnaval.
Au hasard, J'en ai ras-le-bol de gagner une misère avec mon pauvre contrat à 17,5 millions. Je veux le double. Et puis, je veux avoir mon avion privé pour aller à l'entraînement. Je sais, c'est pas un gain de temps puisque je décollerai d'Orly pour atterrir à Orly et que je devrais finir le trajet en bagnole, mais c'est une question de principe. Sinon, je vais au Real avec Zidane, je peux très bien m'acclimater au tiers-monde. Je vous mets pas la pression, mais j'ai déjà fait ma valise et ça fait 2 semaines que je prends des cours d'espagnol. Bisous. En même temps, il a raison le gars, le temps file à une vitesse de dingue. Du coup, moi je fais pareil que Kylian. Voilà, je le dis ce matin, je veux progresser, je suis à un tournant dans ma carrière, c'est le moment d'avoir plus de responsabilités.
Le tournant il dure depuis très longtemps.
J'arrête pas de tourner,
T'es même revenu à ton point de départ.
Ah merde, je veux plus de responsabilités, si c'est sur France Inter, tant mieux, si c'est ailleurs, avec un nouveau projet, ce sera ailleurs. Et sachez que je suis régulièrement en discussion avec Radio Courtoisie. Il se trouve que Radio Courtoisie, un beau projet. La perspective d'une grande victoire des partis nationalistes aux élections européennes de dimanche leur donne des ailes. Ils sont pas loin d'envisager une nouvelle grille des programmes qui fera la part belle aux nazis, aux patriotes. Ils pensent, et je les en remercie, que je serai le candidat idéal pour incarner les valeurs triomphantes et visionnaires de leur projet. Sachez que je ne suis pas le seul à être intéressé par le projet Courtoisie, projet encore secret, dont le nom de code est Grille de Cristal. Alors, Pour diriger les programmes, un trio inattendu est à l'étude, un trio qui serait composé d'Éric Zemmour, de Pascal Praud et de Nagui. Oui, alors je sais, c'est surprenant de la part de Zemmour. Zemmour qui l'a souvent dit, il trouve Nagui trop à droite. Enfin voilà, ils en parlent quand même. Sinon, je suis aussi ouvert aux propositions des petites radios, des radios qui veulent faire du chiffre, se faire connaître, à qui je donnerais volontiers un coup de main pour sortir de l'ombre, comme Europe 1 par exemple. Hein. C'est vrai qu'ils sont très bas. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, France Inter. Bien sûr, vous me connaissez, je suis un garçon raisonnable. Je ne demande pas non plus qu'on aligne mon salaire sur les 80 000 euros hebdomadaires d'Augustin Trapenard. Mais il faudra que l'augmentation soit quand même substantielle. Hein. Si je n'obtiens pas, attention là, je ne plaisante pas.
Oui.
Une clé perso pour la machine à café, ainsi qu'une ramette de papier supplémentaire par mois, eh ben, je m'en fous, je vais ailleurs. Hein. Oh, je sais, c'est beaucoup, mais vous le savez, la vie est une jungle. Allez, à demain.
Merci, Daniel Morin. France Inter, la bande originale. Guillaume Musso signe chez Calman Lévy La vie secrète des écrivains avec cette plume ensanglantée, cette boussole qui va changer donc pour la réédition de direction. Elle ne sera plus nord-est mais elle sera sud-est. Et puis cette jeune fille nue de dos avec un chignon. Il fallait féminiser le...
Il y a quand même l'un des personnages importants dont on n'a pas parlé, c'est effectivement cette jeune journaliste qui fait irruption effectivement chez sa...
J'en ai parlé, bien sûr. Le problème, c'est que je
ne veux pas dire grand-chose.
Et lui, la voit arriver comme ça, et à la fois, on se doute qu'il n'a pas énormément de rencontres, et donc il voit cette
charmée,
Guillaume. Qui est intelligente.
Cher Guillaume Musso, faites le malin. C'est qui cette jeune fille? Allez-y, vous dites quoi?
Parce que
dès l'instant où on va dire, où on la décrit, en fonction de ce que l'on dit,
de Mathilde,
on tue un effet.
Déjà, elle vient et elle est persuadée que l'écrivain a arrêté d'écrire il y a 20 ans parce qu'il a un secret. Et donc elle veut... trouver quel est le secret
journaliste
de cette femme.
On peut dire qu'elle a dénoncé des affaires de corruption,
d'investigation.
Cache investigation.
Voilà. Et lui, il la voit arriver, à la fois il est charmé et à la fois il sait bien qu'elle est là pour fouiller sa vie. Et il devine que c'est une menace et en fait, ça fait 20 ans qu'il cache un truc et je pense qu'il est arrivé à un moment de sa vie où il a quand même envie, que ça sorte, pour apurer ça. Voilà.
Vrai que c'est difficile aussi de l'amener. Je vous laisse faire. Parallèlement à la sortie de votre nouveau roman, qui sort au livre de poche, il y a un tirage exceptionnel de 700 000 exemplaires du précédent de La jeune fille et la nuit.
Oui, La jeune fille et la nuit, mais ça passe aussi dans le sud-est, ça passe en fait à Sophia-en
Antipolis,
c'est une sorte effectivement dans une
silicone école,
Silicon Valley à la française. Et il y a une école qui a un campus. Et j'ai voulu écrire une sorte de campus novel, mais qui se passe non pas aux États-Unis, mais qui se passe effectivement dans le sud de la France. Et c'est un roman que les lecteurs ont apprécié, qui sera bientôt adapté en série télé. Pour France Télévisions.
Alors exactement, par le même producteur Ciné Gallon qui avait fait Une chance de trop.
Oui, d'après Arlan Coben.
Alexandra Lamy et Pascal Elbé. Central Park va faire l'objet aussi d'un film.
Un film, mais alors, Central Park, c'est difficile à monter parce que si vous faites Central Park, vous ne pouvez pas le tourner au Parc Monceau. Donc c'est un film qui est un peu plus long à monter.
Ouais. Parce que New York, parce que États-Unis.
Oui, voilà, c'est 24 heures.
On
ne
peut pas le transposer. Ouais.
On pourrait, mais c'est 24 heures à New York et c'est ces deux personnages dont on a parlé au début qui enquêtent pour savoir pourquoi ils sont sur ce banc à 8 heures du matin menottés l'un à l'autre.
Et Madame Musso étant professeure de théâtre, vous avez l'intention d'adapter La fille de papier au théâtre avec elle.
Oui, voilà. J'aime beaucoup en fait le théâtre depuis longtemps et ce roman qui raconte l'histoire en fait d'un écrivain qui n'arrive plus à écrire, qui est donc syndrome de la page blanche et qui un soir de déprime voit apparaître sur sa terrasse une jeune femme qui est en fait l'héroïne d'un de ses romans précédents qu'il a tué justement dans un roman et elle vient se plaindre à lui de l'avoir tué.
Pas se venger, se plaindre.
Non, voilà, se plaindre et lui dire il faut que tu me ressuscites. Et donc lui, voilà, il n'arrive plus à écrire et ils vont faire un deal tous les deux. C'est sur les rapports justement créateurs créature, voilà. Et c'est assez drôle.
La vie secrète des écrivains. Ce très bon roman signé Guillaume Musso, c'est chez Calman Lévy. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien évidemment, désolé déjà pour notre invité Guillaume Musso, qui ce matin a découvert que Nagui avait été le DJ de ses nuits d'adolescent. Eh oui, Guillaume, c'était lui, c'était Nagui, le vieux monsieur en string qui mixait avec un casque sur une oreille et une paille dans le nez. Désolé pour nos fidèles auditeurs taïwanais et hawaïens qui ce matin ont découvert, outré dans cette émission, qu'ils étaient, je cite, voisins. Eh, ça va les gars, on a regardé, hein, il y a 8492 km, c'est pas si loin que ça. Désolé pour le monde de l'édition qui ce matin a pris, eh ouais, une baffe, une leçon de style par le braqueur, le Balkany de la production, Nagui et sa fameuse recette miracle, colorier Léo et réédité un livre.
Bah, ça fait une édition limitée.
Ouais, c'est vrai, c'est tout. Mais c'est un génie, Nagui. Hein.
C'est ça.
Merci. On dirait un escroc comme ça, mais non, c'est un génie.
Merci, Guillaume Musso.
Merci à vous.
Passez une bonne journée.
Merci.
Encore bravo pour cette vie secrète des écrivains chez Calman Lévy. Demain, Virginie Efira sera notre invitée pour un film en compétition au festival de Cannes qui s'appelle Sibylle et qui est absolument formidable aussi. À demain, passez une bonne journée.